en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Elisabeth Antebi.
Jean d'Ormesson, merci d'être venu nous voir. C'est un grand honneur. Surtout que j'ai, sans le vouloir, assisté à quelques moments de votre vie et quelques merveilleux moments de votre vie. Alors, vous avez dès le départ proclamé que l'amour est un plaisir. Puis vous avez écrit au plaisir de Dieu, sans parler du bonheur à San Miniato. Est-ce que le mot plaisir est un de vos maîtres mots ?
Oui, sûrement. Il faut se rappeler que l'amour est un plaisir est une allusion à un vers qui est l'amour est un plaisir, mais c'est opposé à l'honneur. C'est opposé à l'honneur. Et le plaisir a été évidemment une de mes grandes préoccupations et peut-être une de mes caractéristiques dans un monde qui a en grande partie refusé le plaisir. Et on peut comprendre pourquoi. Nous vivons dans un monde qui a été extraordinairement dur. Je suis de ceux qui croient que le monde a toujours été dur. Mais le XXe siècle a été particulièrement gâté à cet égard. Un homme de ma génération aura connu la Shoah, deux guerres mondiales, le Goulag, le Pol Pot, le Rwanda, le Darfour, la bombe atomique sur Hiroshima, les manipulations génétiques. Il aura assisté en même temps, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans notre siècle, probablement, c'est les progrès de la science. Un homme de ma génération aura assisté à un prodigieux développement de la science. Naturellement, il y a eu Proust, Gide, Claudel, Valéry et tous les grands écrivains français de l'entre-deux-guerres. Il y a eu surtout, je dirais, il y a eu aussi et surtout l'extraordinaire foisonnement de la science. Et on pourrait dire que le siècle, le XXe siècle, s'est divisé en deux grandes parties. Une première partie où domine la physique mathématique, avec Einstein, avec Bohr, avec Heisenberg, avec Louis de Broglie, avec Dirac, avec tous les autres, et qui aboutit à la relativité généralisée.
Quantique, oui, généralisée.
À la relativité restreinte, puis à la relativité généralisée. Et il faut bien le dire, qui aboutit à la bombe atomique. Et la deuxième partie, ce n'est plus la physique mathématique qui est en pointe, mais c'est la biologie moléculaire, avec tous les progrès prodigieux de la science, avec l'allongement de la vie humaine.
Ce serait bien d'avoir un clone de Jean d'Ormesson.
Et mon Dieu, alors est-ce que ce serait bien ? Je ne suis pas sûr. En même temps qu'il y a ces progrès merveilleux, il y a aussi les dangers qu'entraîne la science et qui font évidemment, qui commencent à faire très peur à la population.
Mais vous savez que Lewis Thomas, qui est biologiste d'ailleurs, disait toujours qu'on ne pouvait pas cloner quelqu'un parce qu'il faudrait cloner son chien, son village, sa mère, son frère, etc. Puisque, évidemment, le clone n'est qu'un clone génétique.
On voit bien que la science fait peur, non pas par ses échecs, mais par ses succès. Il y a une loi qui est que tout ce que la science peut faire, elle le fera. Et je crois beaucoup à cette loi.
Nous voilà revenus alors dans le mythe de Pandore, parce que finalement, c'est Épiméthée.
Bien sûr.
C'est le règne d'Épiméthée.
Mais bien sûr, je crois beaucoup à la science. Je crois d'ailleurs que la science peut aussi trouver les moyens de lutter contre ses propres découvertes. Mais vous voyez bien que nous sommes pris dans un progrès constant. Et ce sens du progrès est tout de même quelquefois inquiétant.
Alors d'où vous vient cette joie ? Parce que quand même, quand on vous lit, c'est la joie, c'est pas l'affolement.
En effet, on peut comprendre que dans ce monde, la littérature, le théâtre, le cinéma, la peinture soient un peu sombres. Et en effet, tous ces arts sont sombres à notre époque. Et la joie est extraordinairement peu représenté dans le siècle qui vient de s'écouler. Et je pense que j'ai habité un créneau qui était entièrement déserté. Et c'est peut-être pour cette raison que j'occupe une petite place dans cet arsenal. J'occupe un créneau qui n'est habité par personne.
Oui, alors vous dites, vous venez de publier donc un recueil de vos chroniques littéraires chez votre fille Héloïse, nommée, je suppose, d'après Rousseau. Enfin, je l'ai...
Pas vraiment.
Non ?
Je crains que ce soit plutôt, pour sa mère, je crois que c'est plutôt d'après Héloïse au Plaza, je dois vous l'avouer.
Ah bon, qu'est-ce que c'est Héloïse au Plaza ? Ah oui, la petite Héloïse, la rigolote.
La petite
là.
Héloïse, vous savez, qui était un personnage... très très célèbre il y a, mon Dieu, il y a 40 ans, et qui est un peu oublié.
Je me rappelle maintenant.
Vous vous rappelez, elle avait en laisse un escargot ou une tortue. Et Héloïse était un nom qui avait plu à ma femme. Et naturellement, il y a aussi l'allusion à Héloïse de Rousseau, mais je ne pense pas
La filiation rousseauïsme, étonnez-vous d'ailleurs, parce que vous êtes plutôt voltairien.
Oui, je ne crois pas que ce soit en première ligne.
Vous êtes plutôt voltairien, parce que une des grandes choses récemment, Valeurs Actuelles, pour ne pas le citer, a fait une... un hebdomadaire bien connu, a fait une série sur les écrivains de droite, comme vous le savez.
Oui.
Et ils parlent, ils ont plusieurs définitions, et personne ne rappelle la scission Voltaire-Rousseau, parce qu'au fond, c'est l'héritage voltairien.
Bien sûr.
Vous-même, vous êtes un voltairien. Vous lui ressemblez d'ailleurs un petit peu maintenant.
Alors, on me dit ça. Je n'ai pas une très grande admiration pour Voltaire. Je crois que Voltaire est un homme merveilleusement intelligent, est un journaliste de génie, est un auteur de contes merveilleux, Candide et Zadig, c'est absolument épatant. C'est un poète extrêmement médiocre. C'est un dramaturge du troisième rang.
Mais qui a fait scandale récemment avec Mahomet.
Oui, bien sûr. Oui, oui. Il faut soutenir, d'ailleurs.
Il est à la mode.
Ce qu'il a écrit de mieux, c'est évidemment Candide. C'est la lettre sur la tolérance. La lettre sur la tolérance est magnifique. Et la correspondance est merveilleuse. Mais on voit bien que c'est la fin du classicisme. Quand Hugo renversera la tragédie classique, il pourra la renverser plus facilement parce qu'il y a Voltaire. Renverser Racine ou Corneille, c'est beaucoup plus difficile. Et je ne suis pas sûr que dans le combat entre Racine et Corneille d'un côté et Hugo de l'autre, ce soit Hugo qui l'emporte. Mais dans le combat contre Voltaire, c'est évidemment Hugo qui l'emporte. Alors, contre Voltaire, vous avez en effet Rousseau, pour qui je n'ai pas une sympathie très grande. Il était fou, Rousseau. Et en même temps, c'est un personnage extraordinaire. Il invente le romantisme, il invente le socialisme, au moins le socialisme d'État, il invente la psychanalyse, il invente l'écologie, et il invente l'autofiction. Et bien, vous savez, tout ça, c'est évidemment pas mal. Rousseau est à la source de beaucoup des découvertes du 19e et du 20e siècle, et aussi à la découverte de beaucoup de ses folies.
Alors, vous parlez beaucoup des livres, justement, votre dernière chronique est consacrée aux livres, et vous dites que vous parlez des bains de mer, des femmes, auxquelles vous renoncez, si j'ai bien compris, progressivement, peut-être pas les bains de mer, je ne sais pas, c'est un peu ambigu, la fin, mais en tous les cas, vous dites que, vous avez une très jolie formule, excusez-moi d'aller la chercher, à propos d'Odeur du temps, donc, qui est le titre de ces chroniques, il y avait déjà eu des chroniques, et c'était Gens qui pleurent et Gens qui rient. Et le charme de ces chroniques naît du choc entre l'éphémère par définition, puisqu'une chronique, la mal nommée, est une éphémère par définition, et que vous êtes un immortel. Alors le choc des deux, évidemment, est assez surprenant.
Alors je vais essayer de répondre à tout ça. Il y a trois grandes questions dans ce que vous avez dit. D'abord, l'éphémère et le durable. En effet, dans chronique, il y a chronos, c'est-à-dire le temps qui passe. Et le journalisme est par définition éphémère. Il y a une très très belle définition de Gide. J'appelle journalisme ce qui sera moins intéressant demain qu'aujourd'hui. Et cette définition recoupe une magnifique formule de Peggy. Rien n'est plus vieux que le journal de ce matin et Homère est toujours jeune. Alors, évidemment, j'avais publié un recueil de chroniques qui était des chroniques politiques, qui s'appelait « Jean qui grogne et Jean qui rit ». Et je m'étais dit, à la réflexion, que ce qui vieillit plus, ce sont les chroniques politiques. Et dans ces chroniques-ci, dans « Odeur du temps », j'ai essayé de réunir des chroniques qui soient moins attachées au temps, c'est-à-dire beaucoup de chroniques sur les écrivains, beaucoup de chroniques sur les paysages et beaucoup de chroniques sur les voyages. Et alors, enfin, sur le troisième point, j'ai repris une formule de Gaston Gallimard, à qui on disait « Qu'est-ce que vous avez aimé dans la vie ?» Et il avait répondu, et ça m'avait beaucoup frappé, dans l'ordre, les bains de mer, les femmes, les livres. Il est évident que ça se dit avec un peu d'ironie.
Oh, pour vous, c'est sans doute vrai.
Bon. J'ai beaucoup aimé les bains de mer.
Oui. Jacqueline de Romilly, dans un interview, me disait que, au fond, les journalistes d'autrefois, d'abord, je vous rassure tout de suite, les chroniques de Jean qui pleure, Jean qui lit n'ont pas du tout vieilli, parce que j'en ai relu pour notre entretien, et je trouve qu'au contraire, elles marquent un moment du temps où vous vous êtes opposé à certaines choses, et ça ne vieillit pas. Alors, oui. Il y a des choses, bien sûr, on ne saura plus ce que c'est. Mais on saura que vous vous êtes opposé ou que vous avez mis des bémols à certains moments du temps.
Oui,
donc,
c'est
je
vrai.
Crois que le journaliste a aussi sa place. Mais Jacqueline de Romilly disait que pour les Grecs antiques, on allait... Aujourd'hui, les journalistes vont au plus rapide. Et que pour les Grecs, on allait au plus profond.
Oui, ça me paraît tout à fait vrai.
Et vous êtes au milieu des deux, au fond.
Vous savez, il y a une formule de Chateaubriand que j'aimais beaucoup. Il se définissait comme le nageur des deux rives. Il était encore un homme du XVIIIe siècle. Il était né un an avant Bonaparte. Il sortait du siècle des Lumières et il annonce le nouveau siècle, le siècle du romantisme et du socialisme. Eh bien, je suis aussi une sorte,
oui,
très, très modestement,
mutatis mutandis,
de nageur des deux rives. J'ai vu disparaître un monde et naître un autre monde. Alors, il est probable que, à toutes les générations, on a eu l'impression qu'on voyait disparaître un monde et en apparaître un autre. Il est clair que les gens de 89 ont eu ce sentiment. Les gens de 1848 ont eu énormément cette impression. Les gens de la guerre de 14 ont eu cette impression. Et le 10 mai 40, on a eu aussi cette impression. Mais il est quand même vrai que le XXe siècle aura vu changer beaucoup de choses. Et une des caractéristiques, c'est que la vitesse, en effet, soulignée par Madame de Romilly, est entrée dans la vie intellectuelle et politique et sociale. Et le monde a été évidemment beaucoup plus vite qu'il n'allait pendant, non pas seulement le siècle précédent, mais les millénaires précédents. Tout à coup, on dirait que l'histoire s'est emballée.
Merci Jean d'Ormesson, nous allons faire une petite pause et nous vous retrouvons dans quelques minutes.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture ou encore les ouvrages primés par les académies. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Jean d'Ormesson, nous reprenons cet entretien. Nous allons reprendre par le discours de l'Académie. Votre discours de réception à l'Académie commence par le mot « gloire ».
Ah oui, je m'en souviens. La gloire, messieurs.
Oui, allez-y. Frappe de rayons bien inégaux ceux que vous distinguez.
Ceux que vous distinguez, voilà.
Alors, la gloire revient souvent sous votre plume. Bah, la gloire de l'Empire, qui a été votre premier succès, bien entendu, en 71. Et Jean Lacouture, à un moment donné, discutait avec moi à propos des jésuites, parce que je faisais un travail sur les jésuites. et que j'avais intitulé pour la gloire, pour une plus grande gloire de Dieu.
Et ad majorem gloriam Dei.
Voilà. Et il me disait, mais moi je ne comprends pas, et puis c'est assez pertinent ce qu'il disait, c'est que je ne comprends pas pourquoi Dieu a besoin de gloire. Et comme vous, vous êtes un familier de Dieu, nous y reviendrons. Qu'a donc Dieu besoin de tant de gloire? Qu'est-ce que la gloria? Et on chante le gloria à l'église d'ailleurs. Donc est-ce que, in excelsis Deo, Dieu a besoin de gloire? Et Jean d'Ormesson.
Eh bien, c'est bien intéressant votre question. D'abord, il y a un mot de Lacordaire qui est magnifique et où il dit très simplement, franchement, j'ai pitié de la gloire. C'est très beau. Franchement, j'ai pitié de la gloire. Et probablement qu'on peut avoir pitié de la gloire des hommes. Cette gloire qui ne fait que passer. Et tout ce qui a été glorieux s'écroule. Alors, en revanche, Dieu n'a pas besoin de gloire, parce qu'il est la gloire. Lui est la gloire, et lui ne s'écroule pas. Alors, on pourrait presque dire qu'il n'y a de gloire qu'en Dieu, et qu'il n'y a chez les hommes que des vanités.
Alors pourquoi ad majorem, une plus grande gloire? D'ailleurs, ce n'est pas la plus grande, souvent les gens font la faute, mais nous travaillons à une plus grande gloire.
Alors je crois que, je ne suis pas théologien, mais je pense qu'on peut répondre à cette question. Les hommes ne peuvent rien à la gloire de Dieu, mais ils peuvent répandre une plus grande gloire de Dieu parmi les hommes. Voilà probablement ce que veut dire cette formule, en effet, qui est troublante. Ad majorem gloriam Dei, est-ce que Dieu a besoin de la gloire? Il se moque bien de la gloire des hommes, mais peut-être que le nom de Dieu doit être de plus en plus glorifié par les hommes. Voilà ce qu'on pourrait dire, probablement.
Alors, pour les anciens Grecs, avant, je crois, les pré-socratiques, parlaient du cosmos,
oui,
de l'émerveillement devant le cosmos. Et comme vous le savez, c'est pas vous que je vais l'apprendre, le cosmos veut dire parure.
Oui.
C'est la parure. C'est... Et donc, on est dans le cosmos. Est-ce qu'il n'y a pas une vision chez vous? Parce que chez vous, il y a souvent cette vision... un peu, comment dit-on, panthéiste.
Mais comment vous mettez le doigt sur quelque chose. Je ressens très très fort cet émerveillement devant le cosmos. Je me suis souvent dépeint comme, vous savez, dans la crèche, il y a le petit Jésus, il y a Joseph, il y a Marie, il y a le bœuf, l'âne. Et puis, il y a dans les crèches provençales un petit bonhomme qui est émerveillé par tout ça, qui est un demi-crétin, d'ailleurs un demi-benet, qu'on appelle le ravi de la crèche. Eh bien, je suis le ravi de la crèche. Je suis enchanté par le monde. Et peut-être que si j'ai joué un tout petit rôle, c'est que il semble bien que nous vivions par la tristesse de tout ce que nous avons dit tout à l'heure, par les drames que nous avons vécus, par les malheurs du monde, par tous ces tragédies que nous avons vécues pendant 50 ans, eh bien, il semble bien que le monde ait été désenchanté. Et peut-être que j'essaye très modestement de le réenchanter un peu et de lui rendre un peu d'espérance et un peu de ce bonheur perdu.
Ça, vous avez réussi. Mais est-ce que vous n'avez pas toujours gardé l'esprit du canular? Parce qu'au fond, la gloire de l'Empire, Saint-Fargeau, il y avait Saint-Fargeau, bien sûr, il y avait votre cher Saint-Fargeau, mais il y avait aussi un grand canular de Normalien.
Mais
on le retrouve sous la création du monde.
Est un grand canular.
C'est un grand canular. C'est,
vous savez comment ça s'est passé, la gloire de l'Empire? Vous avez dit
je
ça.
Me rappelle.
Ça a été. Bien sûr.
Ah, j'étais l'une des premières à vous interviewer à l'époque, j'en suis
fière. Oui, je me rappelle très
mais...
bien. J'avais écrit un certain nombre de livres, vous avez rappelé le premier d'entre
du côté de chez Jean,
un plaisir,
oui,
du côté de chez Jean, qui reparaît ces jours-ci, la collection Bouquins, qui avait été créée par Guy Scheller, la collection Bouquins reprend un certain nombre de mes livres, dont du côté de chez Jean. J'avais écrit un certain nombre de livres qui n'avaient pas été des grands succès, ça avait été des demi-succès, des demi-échecs, et j'avais décidé d'arrêter d'écrire, et j'avais écrit un livre qui s'appelait « Au revoir et merci ». Et puis, j'étais à l'UNESCO, je m'occupais de sciences humaines, je m'occupais d'archéologie, d'histoire de l'art, de philosophie, de linguistique, d'archéologie. Et je me suis dit, tout ça ferait un roman formidable. Et j'ai écrit un roman sur un empire imaginaire qui était une sorte de typologie générale de l'histoire. C'était un modèle de l'histoire, ce qu'aurait pu être le monde. Et c'était un énorme bouquin qui avait 800 pages, qui était à la fois un canular et un peu pédant. Je l'ai porté chez Grasset parce que Julliard, qui me publiait, était mort. Et chez Grasset, on m'a dit « Oh, tes premiers livres étaient gais, amusants, mais celui-là, il est vraiment dur, il est difficile. » Alors je l'ai porté chez Gallimard et il a fait 300 000 exemplaires. J'ai eu le prix de l'Académie pour ce livre, j'ai été élu à l'Académie sur ce seul livre. Et en effet, La gloire de l'Empire, c'est aussi une espèce d'émerveillement devant l'histoire. Devant l'histoire qui est gloire et écroulement. C'est pas le, toute l'histoire des hommes n'est que gloire, écroulement, de nouveau de la gloire, de nouveau de l'écroulement, et aucune gloire terrestre ne peut durer. Et indéfiniment, on reconstruit des monuments, des empires et des civilisations.
Si on vous demandait quel est votre mythe grec ou romain, d'ailleurs, favori, votre mythe le plus emblématique, le mythe qui vous semble, pour vous en tous les cas, le plus important, le plus emblématique, le plus effroyable, un mythe que vous raconteriez à vos petits-enfants pour leur apprendre en deux mots ce qu'est le monde?
Oh, vous savez, tous ces mythes grecs sont évidemment magnifiques. Il y a un livre que j'ai beaucoup lu et relu, c'est l'Iliade et l'Odyssée. Et c'est un mélange d'ailleurs de mythes et d'histoire. Dans la mythologie grecque et latine, le mythe évidemment, le mythe merveilleux, il y en a beaucoup, vous savez, il y a presque tout. Je dirais que Prométhée est un mythe magnifique, c'est l'homme qui s'élève contre Zeus, qui le défie.
C'est le mythe du général Galois, figurez-vous, le feu du ciel. D'ailleurs, Galois parle des 30 honteuses, et vous parlez des 25
décadentes. Il y a eu les 30 glorieuses de 45 à 75, où en effet la France est remontée, et à partir de la fin des années 70, il y a eu 30 années un peu difficiles.
Est-ce qu'en littérature, pour vous, ça se marque? Félicien Marceau, par exemple, parle d'une perte de l'imagination. Il dit qu'il n'y a plus d'imagination.
C'est très, très difficile de parler de son époque. C'est très difficile.
Oui, c'est vrai.
Mais pour dire des choses simples, je dirais que la littérature française a 1000 ans. Elle commence en 840. Comme vous savez, par le serment de Strasbourg et le traité de Verdun en 843, qui sont écrits en français, ou ce qui deviendra le français. Et quelques années à peine après, vous avez la première œuvre littéraire en langue romane, qui n'est plus en latin, c'est la Cantilène de Sainte-Eulalie. J'ai longtemps cru que la Cantilène de Sainte-Eulalie, c'était une œuvre considérable. J'en parlais un peu sans l'avoir lue. Et puis j'ai lu la Cantilène de Sainte-Eulalie. C'est très intéressant.
C'est extraordinaire, personne ne l'a lu, oui.
Alors, personne ne l'a lu. Ça a 29 vers. C'est très très court, ça a 29 vers. Mais c'est en... Vous avez du mal à le comprendre. C'est en roman.
Oui.
Et à partir de là, nous avons 1000 ans de littérature française. Mmh. Cette littérature française est éblouissante et il y a, disons, il y a trois grandes époques. Naturellement, il y a le 15e siècle, le 16e siècle. J'adore la poésie du 16e siècle. Mais les trois grandes époques, c'est le classicisme qui va de Pascal et Corneille. L'un crée la langue après Malherbe. On peut dire que c'est Pascal qui crée la prose française, Corneille qui crée les vers français. Et ça va de Pascal et Corneille jusqu'à Voltaire. Voltaire, on l'a vu tout à l'heure, c'est la décadence du classicisme. Vous avez le romantisme qui va de Rousseau et Chateaubriand à Baudelaire et à Villiers-l'Isle-Adam. Et puis vous avez une troisième période qui est éblouissante, qui est l'entre-deux-guerres. Et dans l'entre-deux-guerres, avec Claudel, Gide, Mauriac, Aragon, Céline, Monterland, enfin, c'est absolument prodigieux, c'est absolument prodigieux. Vous avez une époque inouïe. Et on peut dire qu'il y a eu une date funeste, qui est le 10 mai 40. On peut presque donner la journée. Et la France s'écroule. Et évidemment, sa langue est frappée aussi. Depuis le 10 mai 40, l'anglo-saxon l'emporte sur le français dans le monde.
C'est la défaite de Drieu-La Rochelle et de Céline, au fond. C'est oui. La fin du...
Oui, c'est évidemment... c'est un choc terrible. Je ne dirais pas que l'anglo-saxon a définitivement gagné. Il est menacé lui aussi par l'espagnol, par l'arabe ou par le chinois. Le chinois est tout de même parlé par un homme ou une femme sur quatre. Mais la langue française, qui a régné presque sans rival des traités de Westphalie jusque en 40, est évidemment battue en brèche. Et la langue étant battue en brèche, la littérature française, évidemment, n'est pas aujourd'hui ce qu'elle était dans les années 20 et 30.
Le français était en effet la lingua franca de l'Europe. Et vous, vous avez fait peu d'entretiens avec des gens, vous du côté de l'intervieweur, si je puis dire, mais vous avez fait une série d'entretiens c'est magnifiques vrai. Avec Emmanuel Berle,
oui.
Où vous avez parlé de l'Europe. Et oui. J'ai découvert tout d'un coup votre vision aussi de l'Europe, parce qu'on la voit aussi. Alors, il y a Emmanuel Berle, bien entendu, qui a fait un magnifique livre que tout le monde oublie sur l'Europe.
Magnifique.
J'aimais
beaucoup Berle.
Et est-ce que l'Europe peut exister précisément? On parle toujours de l'avenir de l'Europe, Jean-Normand.
Je dirais que je suis...
Et on ne parle jamais de son passé. Si on ne parle pas de son passé, il n'y a pas d'avenir.
Bien sûr. Bien sûr.
Tous
le
ces
passé,
jeunes gens parlent
le passé ne prend un sens, d'ailleurs, que par l'avenir. Le passé prend un sens par l'avenir. Si je suis européen, c'est parce que je suis attaché à la France. Et je suis évidemment persuadé que la France seule ne peut plus tenir dans le monde moderne la place qu'elle occupait. Et il faut qu'elle se fonde dans l'Europe. Et on dit, mais alors, vous acceptez le recul de la France. Mais non, je n'accepte pas le recul. Il faut se référer à Rousseau. Il y a un contrat. Chacun abandonne une part de souveraineté. Si nous abandonnons une part de souveraineté, l'Allemagne aussi, l'Angleterre aussi, l'Espagne aussi, l'Italie aussi. Mais je crois vraiment qu'il faut que nous allions vers l'Europe si nous voulons que la France continue à tenir sa place dans le monde. Je pense que l'Europe est l'avenir de la France.
Oui, mais est-ce qu'il y a
comme
pas
la
un
femme
profond...
est l'avenir de l'homme pour un homme.
Au plus maintenant, la femme est l'avenir de la femme maintenant et l'homme
oui.
de l'homme.
Oui.
Non, mais pour revenir plus sérieusement à l'Europe, est-ce que précisément le fait que il y a une ambiguïté sur cette histoire d'Europe, parce que oui. l'Europe, dans l'esprit des jeunes gens, moi je parle à des, par exemple, je parle au président du Parlement européen des jeunes, qui est assez, c'est une fondation
bien
assez
sûr.
Intéressante. Bon, de quoi ils parlent? Ils comprennent pas de quoi je parle. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle de l'Europe, on meurt pour un euro, on meurt pas pour un drapeau, en gros.
Alors regardons les
alors,
choses.
Est-ce qu'on peut...
Disons les choses comme elles sont. L'Europe financière et économique est pratiquement faite par l'euro. Ce qui est le moins en progrès, c'est l'Europe de la culture. Pourquoi? Alors que c'est la culture qui pouvait faire... On n'a pas fait assez sur la culture européenne. Il y a une culture européenne. Mais
d'où mon festival du latin grec.
Il y a un obstacle, c'est les langues. Nous ne voulons pas abandonner le français. Les Allemands sont attachés à l'allemand. L'allemand est une langue merveilleuse, vous savez. Je suis très attaché à ma langue.
Verheit et so spät durch Nacht und Wind.
Naturellement.
Es ist der Vater.
Die schönste Jungfrau sitzt dort oben, wunderbar. Sie kämmt ihr goldenes Kamm, sie kämmt ihr goldenes Haar, sie kämmt es mit goldenem Kamm. Je pourrais vous réciter.
La Lorelei, hein, pour les gens qui
ne connaissent
pas.
Un peu de Heine, un peu de Goethe. Oui. Je suis attaché à ma famille. Est-ce que vous croyez que je pense que ma famille est meilleure que les autres? Tout ce que je peux vous dire, c'est la mienne. je suis attaché à ma religion. Est-ce que vous croyez que je crois que ma religion, il n'y a qu'elle qui puisse élever les hommes? Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la mienne. Eh bien, je dirais la même chose de ma langue. Je ne pense pas que la langue française est supérieure au latin, est supérieure au grec, est supérieure à l'allemand, est supérieure à l'anglais, mais c'est la mienne. Et je voudrais qu'elle ne meure pas, et je voudrais qu'elle se fonde, qu'elle ne disparaisse pas, mais qu'elle se fonde dans une Europe qui puisse être puissante. Je pense que la culture n'est puissante que quand sa société qui la soutient est puissante. La France n'est plus assez forte pour soutenir sa langue et sa littérature. Eh bien, il faut passer à la vitesse supérieure, passer à l'Europe et tâcher de sauvegarder le français en Europe en la faisant coexister naturellement avec l'allemand, avec l'italien, avec l'espagnol, qui sont aussi des grandes littératures, des belles littératures. Et ça, évidemment, c'est très difficile.
Merci Jean d'Ormesson, nous allons faire une petite pause et nous vous retrouvons dans quelques minutes.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles, historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent, retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Jean d'Ormesson, nous revoilà. Nous parlions de la démission de ce que j'appelle la démission des clercs, en référence évidemment au cher Julien Bindin. Il me semble qu'on ne s'aperçoit pas à l'Académie, qui défend le dictionnaire, qui parle du dictionnaire, mon Dieu, mais est-ce que ça ne devient pas le Concile de Byzance où on parle du sexe des anges? C'est-à-dire qu'il y a le feu au lac, l'esprit de nos enfants est dévasté, est vraiment dévasté, est une terre brûlée, dit vexed et vuxed, comme disait le cher Nietzsche, le désert croix. Non, du vuxed vexed, pardon. Le désert croix. Les enfants ne comprennent plus le sens des mots. Par exemple, pour eux, un bouffon, je vous prends un exemple tout banal, un bouffon, c'est pas un type rigolo qui fait rire le roi ou qui dit des vérités, c'est un... excusez-moi du mot, mais c'est un sale type, j'ai failli dire autre chose, mais enfin, c'est un très 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 sale type, c'est une injure grossière. Bon, alors, il y a ça, mais il y a plein d'autres mots qui ne veulent plus dire ce qu'elles veulent dire. Et les gens n'ont plus le sens de l'humour ou du rire, on me le dit. C'est pour ça qu'on se tape la figure dans les cours de récréation. Parce que moi, quand je plaisante, par exemple, avec des jeunes gens, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas le sens des mots. Donc, le double sens, vous pensez bien. Est-ce qu'à l'Académie française, on a, et même ailleurs, on a le sentiment que réellement, il faut épauler les gens qui, contre vents et marées, essayent d'ensemencer?
Alors d'abord sur les mots, peut-être peut-on rappeler que Confucius, il y a assez longtemps, il y a 2500 ans, voulait d'abord rendre leur sens aux mots et que toute société repose sur un sens exact donné aux mots. Ensuite, il me semble qu'il y a peut-être deux dimensions qui échappent un peu à notre époque. La première, c'est le sentiment du passé. Je crois que le passé, il faut s'en servir pour construire l'avenir. Naturellement, le passé en tant que tel. Je me suis beaucoup occupé du passé, comme tout intellectuel français. Je me suis occupé du passé, peut-être même plus qu'un autre, puisque j'ai écrit un livre, on parlait de la gloire de l'Empire, qui s'appelait « Au plaisir de Dieu », qui était l'histoire d'une famille qui remontait un peu loin. Mais en réalité, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est l'avenir. Vous savez, il y a un grand philosophe que j'aime beaucoup, qui est Woody Allen, qui a une formule que j'ai toujours beaucoup aimé, il disait « L'avenir m'intéresse parce que c'est là que j'ai l'intention de passer mes prochaines années. Seulement, je crois que l'avenir ne peut pas être construit sans une certaine connaissance du passé. Le passé commande l'avenir. Vous savez ce que c'est l'histoire? C'est ce qui empêche l'avenir d'être n'importe quoi. Il y a une histoire qui commande l'avenir. Si vous ne dominez pas ce passé, vous ne pouvez pas construire l'avenir.
Mais est-ce que ce n'est pas le triomphe du futur faisant table rase? Est-ce que ce n'est pas ce que Yankelevitch disait, d'ailleurs très, très clairement, en disant le triomphe de Staline, c'est le filtre qu'il a laissé dans l'esprit des gens?
Voilà, et bien c'est ça qu'il faut, il faut essayer de détruire ça. Et la deuxième dimension, c'est, on pourrait dire que ça tourne autour d'un sujet très difficile, qui est compétition, sélection, élite. Alors, soyez sûr que je ne suis pas aveuglément attaché aux élites. Je pense que beaucoup, très souvent, beaucoup des élites sont de fausses élites. Et il y a un mot d'un surréaliste, je crois, qui disait « Je n'aime pas qu'on dise que chacun soit à sa place, quand justement les gens ne sont pas à leur place ». Le mot élite couvre des choses qui sont quelquefois très discutables. Mais dans le refus de la compétition et de la sélection, il y a tout de même quelque chose d'extraordinaire. C'est l'attachement du public au match de football, au match de rugby, au match de tennis, où il faut à tout prix que sortent un Federer, un Schumacher, les All Blacks qui sont meilleurs que les autres. Et on refuse ça dans le domaine des lettres, de la littérature et de l'enseignement. Il ne faut pas croire que les premiers sont meilleurs que les autres. Je ne le crois pas. Mais il est bon qu'il y ait une certaine émulation. Il est bon qu'on dise il y a des œuvres qui sont meilleures que d'autres. Il y a des films qui sont meilleurs que d'autres, vous savez.
Oui,
il y a des
chansons
qui sont meilleures que d'autres.
Oui.
Eh bien, c'est vrai aussi dans la littérature et dans la vie de l'esprit.
Oui, mais est-ce que, en cette époque où il faut consolider précisément les esprits et les nourrir, Dieu sait, et les parer contre tout désastre, si possible, on renonce aux humanités, les bien-nommées? Est-ce que ça vous paraît judicieux, à une telle époque, de ne vouloir que ce qui va rentrer de l'argent, comme on dit, être efficace? Parce que le grand mot, c'est efficace. C'est pas rentrer de l'argent, ça fait mauvais effet. Mais efficace. Est-ce qu'il n'est pas efficace de faire retour à Mont, comme disait René Char, et de retourner aux humanités? Parce que aujourd'hui, très pratiquement, très concrètement, personne ne s'insurge parmi les lettrés, disons, parmi les aristocrates, parmi les meilleurs, ne s'insurge contre la suppression, tout simplement, de l'enseignement du grec et du latin, qui ne sont pas que du grec et du latin, bien
Alors,
entendu.
On vient de discuter de tout ça à la dernière
Quand
séance
même.
De l'Académie.
Bon.
Et il y a quelqu'un qui a attaché son nom à la défense du grec et du latin, c'est évidemment Jacqueline de Romilly.
Ma reine de notre festival,
Mais oui,
je
et,
le dis.
Et évidemment, c'est une femme admirable. Et elle explique très bien qu'il est très difficile de comprendre, par exemple, la nomenclature scientifique si vous ne connaissez pas les racines, presque toutes les racines des mots savants de la science sont d'origine grecque. En médecine, c'est absolument évident. Et si vous n'avez pas une teinture de grec, eh bien, vous ne pouvez pas comprendre les mots qui désignent les termes de la médecine. Et naturellement, on ne demande pas que tout le monde fasse du grec, mais il ne faut pas abandonner complètement le grec. Pourquoi ? Parce que le grec, c'est quand même notre origine. Notre origine, c'est, Valéry le disait très bien, c'est le grec, le romain et le Moyen-Orient. Eh bien, il faut tenir ces trois racines. Et si vous abandonnez...
Est-ce qu'il ne faut pas l'offrir, d'ailleurs, à ceux qui viennent ? Parce qu'on a fait un ministère, beaucoup décrié, discuté, etc., de l'immigration et de l'identité. Or, l'identité au sens noble du mot, et non pas je n'entre pas dans les querelles du temps, mais l'identité précisément au sens noble du mot n'est-elle pas pour des enfants adoptés de leur apprendre ce qu'est la famille? C'est-à-dire de revenir aux humanités qui est le sens de l'universel, le catholicon. Le catholicon, c'est d'abord l'universel.
Mais bien sûr, je crois qu'il faut expliquer, il faut s'appuyer sur le passé. Là encore, il faut comprendre comment nous sortons de la tragédie grecque, de la philosophie grecque, de l'architecture grecque, comment tout ça est passé par Rome, comment tout ça a été irrigué par le judaïsme et par le christianisme, et nous sortons de ce métissage, déjà un métissage, entre grec, judaïté et latinité.
Est-ce que l'Europe peut oublier cet héritage ?
Eh bien, je ne le crois pas, elle ne peut pas l'oublier. Naturellement, l'Europe n'est pas exclusivement chrétienne, elle n'est pas exclusivement grecque, elle n'est pas exclusivement juive, elle est un peu tout ça. Et ça ne veut pas dire qu'on méprise le reste du monde. Est-ce que vous croyez que je pense que l'islam n'est pas une grande civilisation ? Est-ce que vous croyez que je pense que la Chine n'est pas une grande civilisation ? Il n'y a qu'une civilisation qui a été continue, c'est la Chine. La Chine a 4000 ans d'histoire continue. La nôtre est hachée, elle est hachée.
La Grèce et la langue grecque est quand même la seule qui, même si l'on parle du démotique et tout ça, est restée persistante malgré toutes les envahisseurs de 1500 ans.
Oui, c'est vrai.
Et plus.
Mais
c'est pas 4000 ans, mais on parle.
C'est vrai aussi que quand je suis arrivé en Grèce, hélas, un demi-siècle, et que je me suis dit, je vais me débrouiller avec mon grec ancien. Non, je ne me débrouillais pas avec le grec ancien. Il faut dire aussi que le chinois ne se débrouille probablement pas non plus avec le chinois.
Non, mais vous savez que les mots, et ça c'est un symbole qui vous amusera, c'est que par exemple, angelos, qui voulait dire autrefois évidemment le message, le messager, etc., et qui est devenu le messager, donc l'ange, aujourd'hui signifie l'enveloppe.
Oui, bien sûr.
Bien rapport. Sûr.
Mais oui, mais l'histoire est une dimension fondamentale de l'homme. L'homme est histoire et il est temps. Donc, il faut qu'il se rattache à son passé pour construire, encore une fois, l'avenir.
Alors, vous parliez tout à l'heure de la science. La science est un héritage totalement grec. C'est Pandore. C'est Pandore, d'ailleurs, la première femme était un robot. Ce qui est extraordinaire d'ailleurs pour notre civilisation. Et nous sommes les héritiers de la science, parce que Pandore...
C'est un héritage grec qui est, c'est bien la techné, oui. Et qui est passé en grande partie par le monde arabe. Vous savez
c'est
que
vrai,
si nous
qui a
avons,
été transmis par le monde
si
arabe.
Si nous avons oui. des textes anciens, notamment d'Aristote ou même de certains dramaturges ou auteurs de théâtre grecs, c'est passé par les savants arabes. Peut-être que nous avons eu deux grands passeurs, les moines irlandais et les savants arabes. Alors vous voyez, il faut être attaché à ses racines en s'ouvrant en même temps au monde extérieur. C'est comme ça qu'on construit un avenir.
Jean d'Ormesson, vous qui avez été tellement attaché à Dieu que vous avez entrepris beaucoup de livres où il y a le titre de Dieu et vous parlez de Dieu sur un ton plus ou moins ou sérieux ou moins sérieux, mais toujours plein d'érudition. Est-ce que vous êtes comme les Écossais qui finalement avaient fini par inventer Dieu pour avoir quelqu'un de vraiment solide avec qui discuter ?
Vous savez, il y a cette merveilleuse histoire, c'est une histoire juive, je crois, des deux rabbins qui discutent sur Dieu et à la fin, ils se demandent s'il existe vraiment. Et la formule du rabbin à la fin de la discussion, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Alors ça, c'est une belle formule. Et pour mon compte personnel, il y a une autre formule que je trouve très belle, qui est la formule d'un père de l'Église, alors tout à fait chrétienne, qui dit « Ma foi est la forme de mon espérance ». Au fond, nous ne savons pas. Est-ce que nous savons ce qui nous attend ? Est-ce que nous savons s'il y a un autre monde ? Nous ne pouvons pas le savoir.
Nous ne savons même pas si nous avons rempli notre mission sur Terre, s'il y en avait une.
Oui, depuis quand nous ne pouvons pas le savoir ? Nous pouvons le croire, mais nous ne pouvons pas le savoir. Et je dirais même que le croire, c'est bien difficile. Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'espérer.
Alors, j'ai encore deux dernières questions. L'une, c'est, Jean d'Ormesson quand même, vous êtes beau. Vous êtes talentueux.
Comment ?
Vous avez de l'esprit. Bon, allez, ne faites pas le...
Non.
Vous êtes talentueux, vous avez de l'esprit, vous avez une plume extraordinaire. Et quel est le don que vous regrettez de ne pas avoir ?
Oh, vous savez, ça, je... Vous voulez que je vous dise quel est le don que je regrette de ne pas avoir ? Mais j'aurais voulu savoir écrire. Non, je le dis sans. Je ne le dis pas en toute humilité, je le dis en tout orgueil. Naturellement, dans notre République des lettres d'aujourd'hui, j'occupe une petite place. Mais ce que je voulais, c'est d'occuper une place dans la littérature universelle. C'est parce que mes références sont hautes que je suis modeste. Je pleure tous les jours de ne pas être Homère, de ne pas être Virgile, de ne pas être Cervantes. Et ça, évidemment, je peux dire modestement que je ne le suis pas, et je le regrette terriblement.
Madame de Montespan a eu pour dernier mot « comme je me regretterai ». Jarry a eu pour dernier mot, il faut préparer ces derniers mots, un cure-dent. Donnez-moi un cure-dent. Quel serait le provisoire dernier mot de Jean d'Ormesson?
Oh, vous savez, vous avez dit que vous avez hésité un peu sur les mots que vous alliez choisir quand vous avez dit que je parlais de Dieu, que je lui parlais avec audace, avec ironie, avec... Eh bien, je pense que le dernier mot, c'est pas à moi que je laisse, c'est à Dieu. Et j'espère qu'il me pardonnera.
Merci Jean d'Ormesson.